L'Iran commence l'injection du gaz dans ses nouvelles centrifugeuses. Les forces armées syriennes ont commémoré le 77e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne. Un défilé militaire marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, a annoncé lundi 1er août que son organisation avait reçu l'ordre de mettre en marche et d'injecter du gaz dans des centaines de nouvelles centrifugeuses, y compris des machines IR1 et des machines avancées IR6. Behrouz Kamalvandi a déclaré que cette décision était conforme aux stipulations d'une nouvelle loi stratégique visant à faire lever les sanctions pesant sur l'Iran et à sauvegarder les intérêts de la nation iranienne. L'Agence internationale de l'énergie atomique, la IOA, a déjà été informée de cette décision, a noté le responsable iranien. En juillet 2015, l'Iran a signé avec les principales puissances mondiales, dont les États-Unis, un accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom du plan global d'action conjoint. En vertu de cet accord, Téhéran a accepté de freiner son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions visant le pays. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump a fait sortir les États-Unis de l'accord en mai 2018 et a réimposé des sanctions unilatérales à l'encontre de l'Iran, incitant ce dernier à renoncer à certains de ses engagements pris dans le cadre du pacte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lundi que l'Iran examinait la nouvelle proposition présentée par le coordinateur de l'Union européenne pour la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire. Nous avons annoncé notre volonté afin qu'au moment désigné, les délégations de l'Iran et du groupe P4 plus 1, avec une implication indirecte des États-Unis, puissent poursuivre les discussions à Vienne sur les détails d'un éventuel accord, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne en référence aux négociations en cours à Vienne. Le ministère iranien des Affaires étrangères est préoccupé par les droits de la nation iranienne, a déclaré M. Amir Abdollahian, ajoutant que les lignes rouges de l'Iran devraient être pleinement prises en compte dans l'accord à venir. Je souhaite souligner que nous sommes sérieux dans notre intention de parvenir à un accord solide, bon et stable, et que si la partie américaine est réaliste et a la flexibilité nécessaire dans les possibles négociations, parvenir à un accord ne sera pas très difficile, a-t-il observé. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne et coordinateur de la commission mixte du plan d'action global conjoint, Joseph Borrell, a récemment soumis aux parties à la négociation une proposition dans un effort pour sortir de l'impasse, les pourparlers sur le nucléaire organisés à Vienne. Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais avoir lieu, a déclaré lundi 1er août le président russe Vladimir Poutine. Nous sommes en faveur d'une sécurité égale et indivisible pour tous les membres de la communauté mondiale, a-t-il affirmé dans un message de salutation délivré à l'ouverture de la 10e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP. En tant que partie au TNP et un de ses dépositaires, la Russie a toujours respecté ce pacte et a rempli toutes les obligations stipulées par les accords bilatéraux signés avec les États-Unis sur la réduction et la limitation des armes concernées, a-t-il aussi souligné. La Russie espère que cette conférence apportera une contribution significative au renforcement du régime de non-prolifération nucléaire afin de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, a ajouté le président russe. En Syrie, les forces armées intrépides ont commémoré le lundi 1er août le 77e anniversaire de la fondation de l'armée arabe syrienne en faisant des parades militaires et sportives dans les formations, les académies et les établissements pédagogiques. Dans des allocutions qu'ils ont prononcées à cette occasion, les commandants ont assuré que l'anniversaire de la journée de l'armée constitue une stimulation pour consentir davantage de sacrifices pour défendre la patrie. En outre, les commandants des zones militaires ont visité les cimetières des martyrs et ont posé au nom du président Bachar al-Assad, commandant en chef de l'armée et des forces armées, des couronnes de fleurs sur les monuments commémoratifs. Mise en place à l'occasion du massacre de Ramadan en avril et prolongée de 2 mois, la trêve au Yémen prend fin ce mardi 2 août, alors que les analystes se sont penchés sur les conditions d'un Sarala pour la poursuite de la trêve et ses préconditions pour l'instauration d'une paix durable. À cet égard, le chef de la Fondation de reconstruction du Yémen, Mohamed Reza Sayed Mohamed, affirme que les Saoudiens et les Émiratis ne respectent pas leurs engagements dans le cadre de l'accord de paix sur le port de Daïda, alors que l'actuelle trêve reste fragile en raison des actions de la coalition dirigée par Riyad. Selon l'expert yéménite, l'aéroport de Sanaa et le port de Daïda devront être entièrement ouverts et les fonctionnaires doivent être payés par le biais des revenus du pétrole brut, sans quoi la prolongation de la trêve n'aura aucun sens. Le secrétaire exécutif de la fondation, Ovais Rarani, estime lui aussi que sur fond de l'augmentation du nombre de malades, les demandes d'Ansarallah sur la levée du siège et l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux yéménites sont considérées comme légitimes pour le maintien de la trêve et la mise en œuvre de tout accord de paix. Alors qu'il est, fait-il remarquer, seulement 10 vols sont effectués depuis l'aéroport de Sanaa contre 50 prévus dans l'accord. Ce qui met en cause la crédibilité de l'accord et montre le désengagement dont font preuve les Saoudiens et les Émiratis. Refusant de renoncer aux frappes contre le territoire saoudien, Ansarallah cherche, selon lui, un accord gagnant-gagnant qui permettrait non seulement aux citoyens saoudiens, mais aussi aux Yéménites de vivre en paix. Si l'Arabie saoudite, ajoute-t-il, est revenue sur ses positions et a accepté la trêve, c'est qu'elle a subi de lourds coups militaires suite aux opérations d'Ansarallah contre les sites du géant pétrolier saoudien Aramco à Najran, Jeddah, Riyad et Jizan. Les Béninois ont célébré le lundi 1er août à Cotonou, capitale économique du Bénin, le 62e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance, en présence du président Patrice Talon. Dans la matinée de cette célébration, le président a procédé au dépôt de gerbes au monument aux dévoués, érigé dans les jardins de Mathieu, au cœur de la métropole béninoise, pour saluer la mémoire des enfants du Bénin morts pour la patrie. Ce défilé a été marqué par deux temps forts. L'un est le défilé militaire pédestre exécuté par les différents détachements représentatifs de chacune des composantes des forces de défense et de sécurité et l'autre, un défilé motorisé exclusivement consacré à l'exhibition d'un échantillon de matériel et équipement des forces armées béninoises. Les pays concernés par le gazoduc Nigeria-Maroc connaîtront un essor économique important. La construction du gazoduc Nigeria-Maroc est en cours et tout indique que ce projet aura des conséquences très positives. Younes Mamar, un expert marocain en énergie et en développement, estime que le gazoduc sera bénéfique à tous égards. Mamar affirme que le gazoduc sera principalement positif dans les pays qu'il traversera. Ces nations verront leur économie s'améliorer et par conséquent, leurs attentes économiques croîtront et entraîneront une amélioration du niveau de vie de leurs citoyens. Il convient de rappeler que le gazoduc traversera le Bénin, le Ghana, le Togo, le Libéria, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que le Nigeria et le Maroc, où il commence et termine son parcours. Enfin, le gaz sera transporté du pays à l'ouïe vers l'Espagne. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le plan global d'action conjoint est mort. Certains observateurs estiment que bientôt la partie américaine annoncera unilatéralement l'échec des négociations sous prétexte de l'absence de toute bonne volonté de la part de Téhéran. Le temps presse pour les dirigeants démocrates des États-Unis. À l'approche des élections demi-mandat du Congrès, la Maison-Blanche préfère se débarrasser du dossier nucléaire iranien en accusant les Européens d'être responsables de l'échec des pourparlers avec l'Iran. Les commentateurs estiment qu'après l'annonce unilatérale de la fin des négociations par Washington, les trois partenaires européens, Grande-Bretagne, France et Allemagne, et l'Union européenne essayeront de fixer une nouvelle date pour la reprise des pourparlers en s'appuyant sur l'initiative proposée par l'Espagnol Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'Union européenne. A rappeler que l'Iran a été la seule partie qui s'est opposée jusqu'à présent à cette initiative. Les Américains tenteront à leur tour de faire d'une pierre deux coups. Ils savent que les Iraniens sont opposés au plan de Joseph Borrell. L'opposition iranienne leur facilitera de suggérer que Téhéran est responsable de l'échec des pourparlers. Dans le même temps, l'Amérique pourra blâmer les Européens pour la défaite de leur initiative. Washington veut ainsi faire pression sur Téhéran et l'obliger à accepter les propositions occidentales. Dans ce scénario, c'est l'Iran qui, au bout du compte, devrait accepter ou rejeter ces propositions. Si Téhéran les rejette, l'Amérique poussera les Européens à activer le mécanisme automatique du retour aux sanctions de l'ONU contre la République islamique d'Iran. Or, contrairement aux calculs de Washington, depuis près d'un an, la République islamique d'Iran est arrivée à un stade qu'il peut entièrement se passer de la conclusion d'un accord sur son nucléaire civil. Les analystes estiment que le gouvernement du président Ebrahim Raisi a franchi cette étape stratégique de se passer d'un accord de plus en plus improbable avec les parties occidentales. Certes, outre les évolutions intérieures de l'Iran, le contexte international a permis au gouvernement du président Raisi d'avoir son mot à dire tant sur la guerre en Ukraine que les récentes évolutions à Téhéran. Forbes a écrit sur son site que l'Iran commence à apprendre aux Russes comment se servir des drones kamikazes. La revue américaine rappelle aussi que l'Iran est devenu ces dernières années un grand fabricant de divers types de drones de haute technologie. Par ailleurs, le journal New York Times a souligné que la République islamique d'Iran a trouvé de nouveaux marchés à l'extérieur du Moyen-Orient pour ses drones et qu'elle devient un acteur important dans la fabrication et l'exportation des avions sans pilote. L'Iran change le modèle de la guerre car il n'a plus besoin d'avions de combat extrêmement coûteux et s'appuie désormais sur ses drones pour devenir maître du ciel. Aujourd'hui, les analystes soulignent que la République islamique d'Iran s'affirme de plus en plus comme un acteur incontournable, tant sur le plan régional qu'international. Dans une telle situation, les plans anti-iraniens pourront coûter très cher à leurs auteurs et se retourner contre eux-mêmes.